Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, voici les titres. Commémoration ce mercredi du 65e anniversaire de l'insurrection de Prague. Le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, est en visite en République tchèque. Et puis en hockey sur glace, Jaromír Jágr signe un nouveau contrat en Russie. Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée ce mercredi matin sur la place de la Vieille Ville, les représentants politiques, avec en tête le maire de Prague, Pavel Bém, et le ministre de la Défense, Martin Bartak, ont commémoré le 65e anniversaire de l'insurrection de Prague à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une autre cérémonie s'est déroulée ce midi, devant le bâtiment de la radio tchèque, en présence du président de la République, Václav Klaus. Pour plus d'infos, c'est dans un instant, juste après ce bulletin. Le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, est en République tchèque jusqu'à demain jeudi. C'est la première visite d'Abdou Diouf dans un pays observateur de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Durant son séjour, il rencontrera notamment le président de la République tchèque, Václav Klaus, le président du Sénat, Přemysl Sobotka, et la ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Miroslava Kopitsova. Abdou Diouf profitera de sa visite pour discuter du programme de formation français dans l'administration tchèque, un programme qui se développe dans le cadre d'une entente signée avec l'OIF. Et vous pourrez écouter prochainement sur nos ondes un entretien réalisé avec Abdou Diouf. Le chef de la diplomatie tchèque, Jan Kohout, qui effectue une visite de 3 jours en Israël, a ouvert à Tel Aviv un centre culturel tchèque. C'est le premier centre de ce type que la République tchèque ouvre au Proche-Orient. Ce mercredi, Jan Kohout a rencontré le président israélien Shimon Peres et doit également rencontrer le premier ministre Netanyahou ainsi que son homologue israélien Avigdor Lieberman. La coopération bilatérale dans le domaine de la science et des technologies ainsi que les questions liées au processus de paix au Proche-Orient sont au menu de leurs entretiens. Un mot de sport aussi, je vous le disais en titre, avec du hockey sur glace et la star tchèque, l'attaquant Jaromír Jágr, qui a 38 ans, vient de prolonger son contrat avec son club russe, l'Avangarde d'Omsk. Alors que son retour en NHL est régulièrement évoqué, l'international tchèque Jaromír Jágr, ancien joueur de Pittsburgh, Washington et New York, a décidé de poursuivre sa carrière une saison de plus à Omsk, en Sibérie, où il est arrivé en 2008. Un mot sur la météo, avec un temps nuageux et pluvieux, hélas, ce mercredi, jour de fête des Claudiers, Claudie en français. Jour de fête selon le calendrier local, évidemment, il fait froid, les températures diurnes ne dépassent pas les 13 degrés. Légère amélioration prévue en fin de semaine. Alexis Rosenzweig au micro. Et pour plus d'informations, c'est sur notre site internet dont vous connaissez déjà l'adresse, c'est le www.radio.cz. Après, il suffit de cliquer sur l'onglet français. Et maintenant, c'est la suite du programme en français de Radio Prague avec Anne-Claire déjà installée dans ce studio.
Bonjour à toutes et à tous. Ce 5 mai 2010, nous commémorons les 65 ans de la révolution dite de mai. Il s'agit de l'insurrection de Prague le 5 mai 1945, commémorée ce midi devant la maison de la radio tchèque en présence des personnalités politiques les plus importantes. Nous parlerons ensuite de la société OP Prostějov, le plus grand producteur de prêt-à-porter en République tchèque, déclaré en état de faillite. Et autre déroute, celle des fidèles supporters du club des Bohemians 1905, qui vont être contraints de quitter leur stade et devoir accepter de voir une page de leur histoire se tourner. Et on terminera avec le festival du film à l'Est du Nouveau, à Rouen. Voici donc les thèmes qui seront abordés dans ces faits et événements qu'a le plaisir de vous présenter Anne-Claire Veluire. Très bonne écoute à toutes et à tous. Comme de tradition, le 5 mai, une cérémonie s'est tenue ce mercredi devant la maison de la radio tchèque. C'est en effet par la prise de l'immeuble de la radio et l'appel à la révolte du peuple tchécoslovaque qu'a commencé le 5 mai 1945 l'insurrection de Prague. À partir de ce moment-là et pendant 4 jours jusqu'au 8 mai, la résistance tchèque s'est soulevée contre l'occupant nazi, autant d'événements et de combats qui ont abouti le 9 mai à la libération de la Tchécoslovaquie. Guillaume Narguet était présent à cette cérémonie du 65e anniversaire.
« Parmi les nombreuses personnalités présentes, et notamment politiques, c'est d'abord le président de la République, Václav Klaus, qui s'est exprimé pour souligner que l'héroïsme des résistants pragois au nazisme ne devait être nullement minimisé par le fait qu'ils ont commencé à combattre alors que l'issue de la guerre était déjà une évidence.
Aujourd'hui, lorsque l'on regarde en arrière, on peut penser que les Pragois ont pris les armes lorsqu'il n'y avait plus de raison de combattre. Mais ce n'est pas la réalité. Risquer sa vie dans les derniers jours et les dernières heures de la guerre a été quelque chose de tout à fait admirable, comme en témoigne le grand nombre de victimes et de blessés. Au contraire, ne pas combattre aurait été une démarche plus logique, car il était alors évident qu'il était possible d'attendre tranquillement la fin de la retraite de l'agresseur. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait les gens à Prague.
Devant l'entrée de la radio, le président Klaus a profité de l'occasion pour rappeler ses souvenirs d'enfant, lui qui avait bientôt 4 ans en mai 1945.
Na rozdíl od většiny z vás jsem byl před 65 lety.
À la différence de la majorité d'entre vous, je n'étais pas loin d'ici, il y a 65 ans de cela, lorsque la radio a lancé son appel à l'aide. J'habitais alors avec mes parents à quelques pas d'ici, sur la place Stylovo, et comme petit enfant, je commençais déjà à percevoir l'ambiance de l'époque, suffisamment pour comprendre que la situation était dramatique. Et j'étais là aussi lorsque des barricades ont été élevées à l'angle des rues Yougoslavska et Bielehradska. Ce sont deux moments qu'il n'est pas possible d'oublier.
Ulice stavěla barikáda. Není možné na to zapomenout.
Après le chef de l'État, le président du Sénat, Przemysław Sobotka, a pris la parole à son tour devant la centaine de gens présents, notamment pour rappeler le rôle prépondérant de la radio dans l'histoire du pays au XXe siècle.
Stojíme dnes, tento památný den, před budovou Vinohradského rozhlasu.
Nous sommes rassemblés en ce jour mémorable devant le bâtiment de la radio rue Vinohradska, dont la construction a été achevée en 1931. L'année prochaine, nous célébrerons donc le 80e anniversaire de la mise en service d'un bâtiment qui a joué un rôle vraiment fondamental dans l'histoire contemporaine de notre pays. Je rappellerai avant tout septembre 1938 et le premier appel historique à la mobilisation de l'armée tchécoslovaque, ainsi que l'amer mois d'août 1968, lorsque de nombreux Tchèques ont sacrifié leur vie dans leur volonté d'exprimer leur opposition à l'occupation soviétique. Nous sommes aujourd'hui rassemblés d'abord pour commémorer le 65e anniversaire du début de l'insurrection de Prague en mai 1945, marqué par l'appel à l'aide lancé par la radio. Mais tous les événements tragiques qui sont liés à ce bâtiment ont toujours eu un dénominateur commun, la lutte contre le totalitarisme, la lutte pour la démocratie. C'est pourquoi il convient d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés dans les combats pour la radio, et exprimer le vœu que plus jamais de sang ne coulera pour notre liberté devant le bâtiment de la radio.
Před Vinohradskou budovou rozhlasu prolita krev.
Enfin, le Premier ministre Jan Fischer a rappelé que l'insurrection de Prague détruit le mythe selon lequel les Tchèques n'ont jamais combattu dans leur histoire. Mais selon le chef du gouvernement, plus souvent que de la volonté politique, la liberté et l'indépendance du peuple tchèque ont dépendu du courage et de la volonté des individus tchèques eux-mêmes.
Depuis le début de cette année, le plus grand producteur de prêt-à-porter tchèque, O.P. Prostějov, était insolvable, mais il semblait qu'il pourrait être encore sauvé par un projet de restructuration. Aujourd'hui, il est donc évident que cette initiative pour préserver un des plus grands employeurs de la région a échoué, car la Cour régionale de Brno vient de déclarer la société en état de faillite. Václav Richter.
Cette mesure était d'ailleurs attendue car la situation de l'entreprise continuait à se détériorer. Dans les années 1960, les vêtements fabriqués par l'entreprise d'État O.P. Prostějov et une dizaine de succursales en Moravie étaient portés par une grande partie de la population tchèque. Après la chute du communisme, la société a perdu sa situation privilégiée, mais a su défendre pendant des années sa suprématie sur le marché du prêt-à-porter tchèque. Sa production était recherchée surtout par des clients plutôt conservateurs. Ces dernières années, elle n'arrivait cependant pas à réagir efficacement à la concurrence asiatique, aux fluctuations de la bourse et aux nouvelles tendances de la mode. Encore en 2008, OP Prostějov comptait 3000 employés, mais au début de cette année, leur nombre est tombé à 1900 et la dette de la société a fini par se chiffrer à 1,6 milliard de couronnes, quelque 60 millions d'euros. D'après l'administrateur de la faillite, Jaroslav Svoboda, la chute ne s'est pas arrêtée même pendant les premiers mois de 2010.
Au cours du premier trimestre de cette année, les pertes ont dépassé 100 millions de couronnes, presque 4 millions d'euros. On peut procéder maintenant à la vente de l'ensemble ou d'une partie de la société qui poursuivra ses activités, mais dont le propriétaire sera une nouvelle personne morale.
Le juge de la Cour régionale de Brno, Jan Kozák, estime pourtant que l'avenir de l'usine de Prostějov n'est pas sans espoir. Selon lui, il existe toujours la possibilité que la production de l'entreprise soit en partie conservée. C'est pourquoi le juge a nommé, outre Jan Svoboda, un deuxième administrateur de faillite qui se chargera uniquement de problèmes de vente. Cela doit permettre à Jan Svoboda de préparer intensivement des mesures pour sauver au moins une partie de la production de l'usine. Ces mesures s'annoncent d'ailleurs draconiennes. La dernière succursale de la société dans la ville de Jeseník a déjà été fermée et les effectifs ont aussi été sensiblement réduits dans l'usine mère de Prostějov. Rien que vendredi dernier, quelques 600 employés de Jeseník et de Prostějov ont été licenciés. La société, qui comptait à l'époque de sa prospérité près de 10 000 employés, n'en a donc aujourd'hui plus que 900.
Nous vous en parlions la semaine dernière, c'est désormais officiel. Le club de football des Bohemians 1905 va quitter son stade et disputer ses matchs dans celui du Slavia Prague. C'est la fin d'une histoire longue de près d'un siècle dans le stade surnommé Djolicek, qui n'est plus aux normes en vigueur actuellement. Alexis Rosenzweig.
Les responsables du club ont signé un contrat de 5 ans avec les propriétaires de la Sinotip Arena, ou Eden, le nouveau stade du Slavia Prague, qui se trouve à quelques centaines de mètres seulement du Djolicek. Explication du directeur des Bohemians 1905, qui s'appelle Lukáš Přibyl.
Il s'agit d'une décision de la majorité des actionnaires des Bohemians 1905, prise en considération de tous les paramètres, notamment économiques, pour la future stabilité du club. Nous devons encore préciser comment cela va se passer concrètement, mais pour l'instant, les Bohemians vont rester dans leur stade pour l'entraînement et se rendront seulement pour les matchs au stade Eden.
Le virage sud de ce stade Eden devrait être légèrement transformé pour que les fidèles supporters des Bohemians ne se sentent pas à l'extérieur quand leur équipe jouera à domicile. C'est un coup dur pour les fans des Kangourous qui avaient essayé une nouvelle fois d'organiser une collecte pour sauver leur stade, mais sa rénovation et notamment l'installation d'un système de chauffage pour la pelouse serait un investissement très cher, trop cher. Le Djolicek devrait donc toujours servir de terrain d'entraînement, en tout cas un certain temps, jusqu'à ce que peut-être des promoteurs immobiliers flairent la bonne affaire et construisent des immeubles à la place de ce stade où les Bohemians jouaient depuis 80 ans. J'ai peur que cette fois ce soit pour de bon, ça me donne envie de pleurer, c'est ce qu'a déclaré le gardien de l'équipe, Radek Snjožík. D'autres stades en Europe sont partagés par plusieurs clubs, comme celui de San Siro, où jouent l'Inter et l'AC Milan, ou encore le stade de Munich en Allemagne, partagé par le Bayern et Munich 1860.
À l'Est du Nouveau, c'est le nom d'un festival qui essaie de promouvoir les films des pays d'Europe centrale et orientale. Le festival se déroule du 6 au 14 mai à Rouen, en France. Nous avons eu David Duponchel, le directeur du festival, au bout du fil.
Je suis parti en 1997 faire mes études de cinéma à Prague, à la FAMU, où là j'ai découvert tout un cinéma en fait. Et durant 5 ans, je me suis familiarisé avec ce cinéma, j'ai appris à le connaître. Et bon, j'étais déjà un petit peu attiré par ce cinéma-là et ça n'a fait que confirmer ma passion. Voilà. Et puis donc, comme je venais de Rouen, ça m'a semblé bien en fait de pouvoir réunir ces deux mondes un petit peu, quoi. Et donc on a décidé en 2002, j'étais avec un ami à moi aussi qui étudiait à la FAMU. On a donc décidé de créer ce festival à Rouen dans le cadre de la saison tchèque en France. Et donc c'était un festival qui était tout au début, en 2002, exclusivement tchèque. On avait présenté beaucoup de films d'animation, des films de Chytilová, Věra Chytilová qui était ma professeure à cette époque-là, et puis tout ce qui était un peu nouvelle vague, et puis les films qui arrivaient avec Slama, les nouveaux films tchèques. Et puis on a décidé d'ouvrir ce cinéma à d'autres films plus, disons, contemporains, parce qu'il y avait le cinéma roumain qui était très en forme, mais aussi le cinéma hongrois. Et donc on a décidé d'ouvrir et de faire une session compétitive qui s'appelle À l'Est, et donc de sélectionner 10 films qui venaient de l'Est. Et puis le festival s'est construit d'année en année, et on a fini par le créer à Lima aussi, au Pérou, où je vis actuellement. Et donc on a deux festivals à l'Est qui présentent grosso modo la même programmation, et le festival me suit et voyage un peu avec moi.
D'accord, alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la programmation de l'édition 2010 de ce festival à l'Est du Nouveau, et peut-être un peu de la place du cinéma tchèque dans cette programmation ?
On n'a pas beaucoup de films tchèques cette année. On a un film, en fait, c'est une actrice qui a étudié à la FAMU aussi, qui s'appelle Mira Forinayova. Et donc, on va présenter son film qui s'appelle Les Petits Renards. En tchèque, ça donnait Listitschki. Et puis, on a un film d'animation que vous devez connaître, qui s'appelle Drôle de Grenier en français, qui est un film de Yiji Barta. Bon, pour la programmation de cette année, on a donc une section compétitive. J'ai mis plus un travail sur, en fait, tout ce qui est films expérimentaux, en fait. Parce que ce qui me semble bien, c'est un peu de déformater un peu, en fait, un peu le cinéma, surtout pour ce qui est en France. Hein.
Est-ce que dans ce festival, il y a plusieurs pays Est et Centre européens sont représentés, de l'Autriche à la Russie? C'est à la fois un ensemble hétérogène, et en même temps, ça reste l'Europe centrale et orientale. Est-ce que vous voyez une forme d'homogénéité du cinéma Centre et Est européen?
Je pense qu'il y a quand même de grandes lignes, dans le sens où, par exemple, il y a énormément de films sur la famille. La famille, le départ, etc. Bon, alors bien sûr, c'est une thématique qu'on va retrouver dans beaucoup de films, mais c'est une thématique aussi qui nous dit quoi ? C'est une thématique, en fait, qui parle de l'intimité des êtres, d'accord ? De l'intimité des choses, plus des choses qui nous touchent, nous. Donc c'est un cinéma assez intimiste, donc évidemment, il va évidemment, en fait, ça s'adresser plus au cœur, à l'émotion, donc on a pas mal de films sur la famille, comme Les Petits Renards, qui a un conflit entre sœurs, La Forêt, qui est pas un conflit, mais qui est une espèce d'odyssée entre un père et son fils. Il y a beaucoup de cette thématique, en fait, qui revient au cours du festival.
Le slogan du festival, ou pas le slogan, mais on voit sur le site internet, sortez des clichés, donc pour inviter le public français à venir voir ce festival. Est-ce que c'est difficile d'attirer le public français pour venir voir ces films d'Europe centrale et orientale?
Ah oui, mais ça n'a rien à voir, en fait, quand même, avec le Pérou, par exemple, où moi je vois des queues devant les cinémas, etc. Le public français est très, très, très sélectif. C'est vrai qu'il a peut-être une image un peu négative de ce cinéma-là, qui est complètement fausse, quoi, au fait où c'est un cinéma qui va chercher un peu plus dans l'âme humaine, c'est-à-dire, je sais pas, moi, je pense à des cinéastes polonais, etc. Donc, ils ont un petit peu une vision un petit peu superficielle de ce cinéma-là. Et donc, nous, on essaye de faire venir les gens au cinéma en leur disant non, le cinéma original, il vient de cette partie du monde.
Voilà, c'est avec David Duponchel, directeur du festival à l'Est du Nouveau, que se terminent ces faits et événements de ce mercredi 5 mai. On continue néanmoins ce programme avec la rubrique Histoire, qui revient plus en détail sur ce 5 mai 1945.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Nous en avons déjà parlé dans nos faits et événements. Il y a 65 ans de cela, le 5 mai 1945, l'insurrection du peuple tchèque éclatait. Le signal à l'insurrection a été donné par le Conseil national tchèque par l'intermédiaire de la radio publique, qui servira, à partir de ce moment-là, de médiateur coordonnant les activités des Tchèques sur les 1600 barricades érigées dans Prague. Le premier appel à venir en aide au peuple insurgé est diffusé à 12h30 le 5 mai 1945. Il devient une injonction à la résistance massive contre l'occupant.
Voláme české vojsko, české četníky, přijďte i hned do českého rozhlasu, přijďte nám pomoct.
Voláme všechno, co je... Nous appelons la police tchèque, les gendarmes, l'armée, à venir en aide à la radio. Venez tous à la radio. Les Tchèques y sont massacrés. Nous appelons tous les Tchèques.
Voláme všechno, co je české, na pomoc českému rozhlasu.
Près de 30 000 personnes ont pris part au combat la première semaine du mois de mai 1945. 1698 personnes sont mortes au cours de cette semaine. Antonín Šticha, président de la communauté des légionnaires tchécoslovaques, a participé à l'insurrection et au combat. Il est d'ailleurs lauréat de la distinction « combattant pour la radio ». 65 ans après, il estime que l'importance de l'insurrection n'est pas perçue comme il le faudrait, conséquence aussi d'une déformation par le régime précédent, car le régime d'après-guerre distinguait entre les différentes organisations de résistance.
Non seulement une mauvaise interprétation de l'insurrection de ses motifs a été donnée, mais en plus, on accentuait le mérite d'une seule partie au détriment des autres. Je ne voudrais pas accuser aujourd'hui le Parti communiste en tant que tel, mais on oublie que tous les Tchèques ont pris part au combat, tous les Tchèques sont allés sur les barricades. On ne parlait pas de politique, mais uniquement de la libération de la patrie.
Nikde se o politice nemluvilo. Mluvilo se pouze o osvobození vlasti.
Le 8 mai 1945, la capitulation était signée à Prague par le général allemand Rudolf Toussaint et le Conseil national tchèque. La Wehrmacht, dirigée par le général Schörner, capitule, mais les SS, eux, n'ont alors pas encore déposé les armes. Quel a été leur rôle joué par l'insurrection pragoise face à ces forces armées? Est-ce qu'elle a réussi à déjouer leur plan de renforcer dans leur position à Prague?
Je n'ai aucun doute là-dessus, car elle a réussi à éviter l'occupation de ce qui était en jeu ces jours-là. Les cibles stratégiques, dont en premier lieu les ponts sur la Vltava et sur l'Elbe, que les Allemands avaient l'intention de maintenir à tout prix face à l'armée soviétique venant du Nord. De ce point de vue, l'insurrection pragoise a joué le même rôle qui, autrement, incombe aux troupes parachutées, dont la tâche est de créer un arrière-front permettant une offensive rapide des armées
attaquantes.
L'insurrection du peuple tchèque qui a éclaté non seulement à Prague, mais aussi dans plus de 290 autres communes, a précipité la fin de la guerre. Prague a été libérée le 9 mai à l'aube par l'armée rouge arrivée de Dresde. Pour certains, Prague aurait pu être libérée plus tôt si les Américains n'avaient pas dû respecter la ligne de démarcation convenue dans l'esprit de la future division de l'Europe. Or, Prague était prédestinée à faire partie du bloc de l'Est. Ceci dit, quel est le regard porté sur l'insurrection par l'ancien pilote de la RAF, le capitaine Jaroslav Christovský?
My jsme byli v Anglii nachystaní, letadla už byly nachystaní.
Nous, en Angleterre, nous étions prêts. Les avions étaient prêts à s'envoler pour Prague. Si la direction politique nous l'avait permis, l'insurrection n'aurait pas dû durer 4 jours, car nous étions capables d'être à Prague 4 heures après son éclatement.
Après le coup d'État communiste de 1948, l'insurrection pragoise est devenue l'objet de manipulations et d'abus. Ainsi, l'un des tabous touche à l'engagement des troupes Vlassov, soldats soviétiques, mais adversaires de l'armée rouge ayant créé leurs propres unités. L'historien Edward Stehlík de l'Institut militaire historique explique.
Tam je potřeba si uvědomit jednu věc, abychom nesklouzli k tomu, jestliže se do roku 89 tady nemohlo teda o...
Il ne faut pas glisser vers l'autre extrême et dire que Prague a été libérée par les troupes Vlassov après qu'il ait été interdit jusqu'en 1989 de parler de leur aide. Cette aide était surtout psychologique mais aussi militaire. Ces soldats bien armés ont surtout bloqué les parties sud-ouest de Prague. Près de 300 d'entre eux sont tombés. Mais le principal poids des combats reposait sur les Tchèques qui ont gagné eux-mêmes l'insurrection.
Le régime communiste n'a jamais pardonné aux acteurs et héros de l'insurrection que Prague se soit libérée d'elle-même, avant même l'arrivée de l'armée rouge. Le capitaine Nechanski, membre du Conseil national tchèque et co-signataire de la capitulation, fut exécuté. Un autre signataire de la capitulation, le général Kutlvachr, fut quant à lui emprisonné dans la même cellule avec celui contre qui il avait lutté, le général allemand Toussaint.
Voilà, c'est la fin de ce programme quotidien d'actualité tchèque en français. Retrouvez toutes nos émissions sur le www.radio.cz ou demain, même heure, même fréquence, Zatim Ahoy.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.